France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Dès la rentrée prochaine, les élèves des écoles, collèges et lycées auront droit à des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Selon la nouvelle loi en classe de 4e, par exemple, l'un des objectifs sera, je cite, de mettre en place et d'examiner les différentes définitions de la sexualité, reproduction, désir d'enfant, plaisir, amour. En 3e, les élèves devront apprendre à inscrire la sexualité dans la définition et le respect des droits humains, et plus tard en terminale, les élèves pourront apprendre à s'éprouver, je cite, dans leur sensibilité propre pour se connaître. En attendant, les ados apprennent sur le tas entre pairs, PAIR, entre camarades, amis et aussi via les réseaux sociaux et singulièrement TikTok et Instagram qui font office de grands éducateurs sexuels de la jeunesse pour le meilleur et pour le pire, comme le rappelle le magazine Oui Demain, notre partenaire ce matin. Et puis nous nous pencherons également sur le rôle de la pornographie, des séries télé hein, comme Sex Education ou Scam dans leur apprentissage de la sexualité. Enfin, nous verrons quel est le rôle des parents. Hein. Pas toujours évident de parler de ces sujets intimes avec sa progéniture. N'hésitez pas à nous dire comment se fait l'éducation sexuelle et affective de vos enfants et de vos petits-enfants sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Évidemment, cette émission, ce mercredi, ne s'adresse pas forcément aux moins de 12 ans. Bienvenue... Julien Bisson, j'allais enchaîner sans vous, mon cher Julien Bisson, quel est le menu de votre chronique Ma vie de parent ?
Ben bonjour mon cher Ali. Alors cette semaine, on va se demander si l'éducation sexuelle des ados, c'était mieux avant.
On verra ça tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Alors, pourquoi la première fois avec son homme ou une femme, en tout cas le premier rapport, on a tendance à être assez serré, assez fermé dans la zone intime du bas?
Combien de centimètres il faut avoir entre les jambes pour taper dans le fond?
Les préliminaires, ce sont tous les petits actes que tu vas faire lors d'un rapport qui ont pour but d'exciter et de donner du plaisir. Très bonne question, comment on sait qu'on a envie de faire l'amour?
Je décrypte des expressions qu'on connaît tous et toutes, hein, donc ça va de faire du sale, en katchana, se faire bouffer le cul, se faire défoncer.
Arrêtez de cracher dans nos chatons sacrés comme si on était des caniveaux, ça irrite en fait. Utilisez des produits adaptés.
Montage de vidéo TikTok réalisé par Claire Destacan. Bonjour Armel Auger.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et conseillère éditoriale du très bon magazine Oui Demain. Et vous avez enquêté sur cette éducation sexuelle abandonnée à TikTok pour le meilleur et pour le pire. Bonjour Camille Aumont-Carnel.
Bonjour Ali.
Vous êtes reconnue dans le petit montage là.
À peine.
Voilà. Vous êtes militante féministe, autrice du compte Instagram, arrobas je m'emballe le clito. Et vous avez notamment écrit Les mots du cul aux éditions Le Robert et hashtag adosexo chez Albin Michel. Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Comment faire une émission sur la sexualité sans vous dans Grand Bien vous fasse? Vous
êtes... parce qu'on repasse au vouvoiement maintenant. Très
oui,
bien.
C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai que précédemment, quand vous étiez là le vendredi, on se tutoyait, c'est vrai. Mais là, on se vouvoie. Voilà. Vous êtes sexperte, chroniqueuse spécialisée dans les questions de sexualité au Monde et dans l'émission Quotidien sur TMC. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeur de philosophie, doctorant, président du Paris Podcast Festival, spécialiste de la pop philosophie et vous chroniquez le vendredi dans cette émission. Bonjour Alexandra Hubin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes à Bruxelles, vous êtes docteur en psychologie et sexologue clinicienne donc à Bruxelles et vous avez fondé Sexopositive, c'est une plateforme qui s'attache à la transmission de connaissances et de compétences en matière de santé sexuelle. Alors je l'ai dit en introduction, une nouvelle loi encadre les programmes des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, ce sera de la maternelle au lycée à partir de septembre, c'est une première dans le système éducatif français. Autour de la table, avant d'aborder ces nouveaux programmes, est-ce que vous avez eu des cours d'éducation sexuelle, Camille Aumont-Carnel?
Absolument pas. Moi, j'ai eu, je crois, juste une après-midi où on allait tous et toutes à l'infirmerie et on mettait des préservatifs sur des bananes. Mmh. Et ça finissait malheureusement en bataille de ballons de capote. Mmh. Et c'était à peu près tout. Et après, des cours d'SVT où on me montrait soi-disant une vulve. Et on était plutôt axé d'ailleurs sur la sexualité reproductive avec les appareils génitaux, l'utérus, etc. Mais sinon, on m'a pas parlé de consentement, on m'a pas parlé de plaisir, on m'a pas parlé de toutes ces questions-là.
Moi, je me souviens, au cours de sciences naturelles, d'une séance de visionnage d'une vidéo d'un accouchement en gros plan. Hein, je crois qu'on en parlera tout à l'heure dans la chronique de Julien Bisson. Maya Mazorette, est-ce que vous vous souvenez de cours d'éducation sexuelle ou à la vie affective ?
Un cours de SVT, sans doute le même, qui parlait de la reproduction, et deux heures d'enseignement prodigué par une association qui s'occupait de sida pour nous expliquer qu'il fallait mettre le préservatif, point barre.
Armel Auger.
Et moi, un film alors très traumatisant qui s'appelait Helga, je m'en souviens encore, sur la notion, justement, enfin pas la notion, un accouchement. Donc, la sexualité cernée sur l'accouchement, quand même très,
je crois qu'on a dû voir la même vidéo.
Pour des tout jeunes et sans aucun préambule avant. Donc, ouais, c'était un peu rude.
Thibaut de Saint-Maurice ?
Non, pas d'éducation à la vie sexuelle, affective, relationnelle. Au lycée, enfin, collège-lycée dans les années 1990, le sujet, enfin, la conversation est monopolisée par le sida et les IST, et enfin, principalement le sida. Et donc, en fait, on est surinformé de ça à l'époque, même collège-lycée, et donc, effectivement, préservatif, etc. Mais c'est complètement décorrélé d'une éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle. Donc, c'est vraiment génération post-sida, quoi.
Et vous, Julien Bisson, j'imagine que c'est la même chose dans les années 90.
Oui.
Vous étiez au collège et au lycée.
Oui, c'était à peu près la même chose. C'était en effet, on n'avait rien du tout sur la vie sexuelle autour de la sexualité, de comment est-ce qu'il fallait se comporter. La question du consentement, évidemment, n'a jamais été abordée. C'était vraiment une question hygiénique. Une question technique, mais certainement pas une question qui avait lieu avec l'affection, avec le soin, avec le plaisir, rien de tout cela.
Et vous, Alexandra Hubin, dans les années 80-90 en Belgique ?
Alors, il faut savoir que moi, j'étais chez les sœurs à l'école. Et donc, on pourrait imaginer que j'ai pas eu de cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et en fait, si, on a eu une association qui est venue. Maintenant, c'est clair qu'on n'a pas abordé des notions de plaisir, de ressenti, de guide, finalement, de savoir comment s'y retrouver. C'était plutôt une sexualité qui faisait peur, avec les grossesses non désirées, avec les infections sexuellement transmissibles. Et donc voilà, c'est peut-être d'ailleurs ça qui m'a donné envie de faire ce métier.
Armel Auger, que pensez-vous de ces nouveaux programmes qui seront mis en place dès la rentrée prochaine ?
Alors d'abord, ils étaient vraiment attendus, parce qu'ils ont été remis pendant quasiment deux ans.
Reportés.
Non, c'est trop tôt. Non, le sujet est trop vif. Non, il va. Il y avait une panique des ABC de l'égalité de 2014 avec les manifs qu'ils avaient générés, etc. Et les parents qui étaient vent debout. Les parents ont commencé. Certains parents de certaines associations, mais quand même un nombre certain, ont commencé, dès qu'ils ont entendu parler de ces programmes, à s'organiser. Et là, oui, ils sont très complets. D'abord parce qu'ils prennent en compte chaque classe d'âge. Hein, ça commence à la maternelle, ça finit en terminale. Et je pense que ça va faire beaucoup bouger les choses. Parce que bon, je vois en CP, on va nommer les parties du corps de façon scientifique. Donc en CP, ça va faire bouger certains qui vont dire non, on enlève la poésie, etc. En CE1, lire des albums pour évoquer tous les types, notamment de famille. Et en cinquième, développer librement sa personnalité sexuelle et ne pas être contraint. Donc ça, c'est des mots vraiment forts. Oui, celles-là, s'ils sont appliqués, ça peut faire bouger les choses. Oui.
Votre regard, Camille Aumont-Carnel ?
Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'associer avec toutes les différentes sections, donc CP, CE1 et 5e que vous venez de donner, des âges. En fait, quand on est en CP, on a 6 ans, ensuite CE1, on a 7, 8 ans. La moyenne d'âge du visionnage du premier porno en France est 9 ans. Donc quand on parle en 5e de pouvoir nommer, s'exprimer, en fait, c'est trop tard. Donc là, on va quand même se réjouir parce qu'il se passe quelque chose et donc vraiment, c'est super. c'est très intéressant et c'est important que la sexualité, l'éducation sexuelle soit institutionnalisée. Ça, on n'en parle pas. Par contre, c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'en fait, les ados n'ont pas attendu. C'est-à-dire que nous, quand on en parlait tout à l'heure, on se disait, mais en fait, on allait à l'infirmerie, on avait une vidéo d'accouchement. La cruauté vient du fait que c'est l'âge et c'est la période où on a un maximum de questions. Et en fait, je dis toujours la même chose, les ados restent pas sans réponse. On va juste chercher les réponses au mauvais endroit.
Le regard du prof, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je pense que ce qui est l'apport majeur de cette loi et de ce qui est en train de se passer, c'est effectivement une sorte de vous l'avez dit, d'institutionnalisation et une conception, ça l'éducation nationale, c'est le faire de programme du début jusqu'à la fin du parcours, etc. Moi, je pense que là, ce qui il faut s'en réjouir, entre guillemets, mais ce qui va être le principal enjeu, c'est la façon dont, en fait, les enseignants, les adultes qui vont intervenir vont s'emparer de ça. Pour avoir enseigné des années, là, une distance entre le programme et ensuite ce qu'on en fait en classe. Et pour le coup, moi, j'ai plutôt une grande confiance dans le fait que les enseignants sauront, avec la singularité de leur classe aussi, le contexte dans lequel ils évoluent, etc., sauront appliquer ces programmes, voire même, faisons le pari de l'intelligence jusqu'au bout, intégrer ces programmes aussi et faire des liens avec le reste du programme scolaire, parce que sur ce sujet-là, la connaissance ne peut jamais faire de mal, c'est-à-dire faire du lien avec de l'histoire, avec de l'économie, avec... voilà.
Et aussi, pour revenir à l'application de ces programmes, je pense qu'on a tous et toutes eu au collège et au lycée des profs qui avaient une façon d'aborder les cours où on faisait plus des débats, où on avait des discussions. Et je pense que justement, ces questions liées aux sexualités, c'est typiquement le genre de questions qui doivent être d'abord abordées de par l'expérience, de par les questions. Ça doit venir, à mon sens, d'abord des élèves pour ensuite monter en généralité et en connaissance et en compétence, et pas l'inverse. On doit pas être dans une posture de sachant qui enseigne quelque chose, mais plutôt dans une posture de personne qui, voilà, fait de la médiation, qui explique, qui donne des exemples et qui repose un cadre, notamment légal.
Maïa Mazourette.
Moi, je suis ravie de voir que ça change. Déjà, c'est-à-dire qu'on est face à des problématiques qui évoluent très vite, et l'idée qu'il y ait une sexualité éternelle ou une affectivité éternelle qui serait toujours la même et qu'il faudrait enseigner de la même manière n'a vraiment aucun sens. Camille nous parlait par exemple de la pornographie qui effectivement est consommée de plus en plus jeune, mais il y a aussi la puberté qui arrive de plus en plus tôt, jusqu'à 8-9 ans chez les jeunes filles. Les questions de consentement, on en parlait pas tant que ça au moment des ABC de l'égalité. Elles sont vraiment arrivées très fortement parmi nous aujourd'hui. Donc il y a les questions de violence sexuelle et les questions de genre aussi, de transphobie, de LGBT-phobie en général, qui font qu'effectivement, il faudrait très très régulièrement finalement remettre à jour ces programmes parce que au bout de 5 ans, quelque part, ils sont périmés maintenant.
Remettre à jour parce que TikTok est un formidable comme ça renvoi de ce qui se passe sur notamment le Haut Conseil à l'égalité a noté cette notion de sexisme qui non seulement ne fait pas marche arrière mais qui avance et avec des hashtags et des sites autour du virilisme et du masculinisme qui vraiment sur des jeunes et notamment des jeunes garçons commencent à bousculer la donne, pas dans le bon sens du tout, et avec une attractivité hein, que ces sites Tradwife, Ma copine à la maison,
Tradwife, ça veut dire femme traditionnelle,
et des choses beaucoup plus graves que ça. Donc oui, il faut sans arrêt que cette éducation à la vie sexuelle s'adapte aussi aux questionnements qui vont vite via les réseaux sociaux et répondre, avoir ce ping-pong constant.
Alexandra Hubin, comment est organisée cette éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle chez vous en Belgique ?
Oui, ça fait longtemps en fait que c'est une invitation qui est faite auprès des directions d'école, des pouvoirs organisateurs et tout ça, d'organiser régulièrement des animations à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Mais en fait là, depuis la rentrée, c'est devenu une obligation. Alors évidemment, faute de moyens, ils ont débloqué pas mal de fonds en fait pour former les personnes de terrain, donc ceux qui vont faire ces fameuses animations. Donc en leur donnant des outils d'animation pour ce type de session et aussi des connaissances par rapport à la santé sexuelle. Mais du coup, le faire chaque année, même si ce serait un rêve, et beaucoup plus tôt, comme l'a dit Camille, c'est aussi quelque chose qu'évidemment nous, on constate qui serait essentiel, mais ils le font que sur 2 années. Et donc chez nous, c'est à 6e primaire, donc chez vous, ça correspond à CM2 et 4e secondaire chez nous. Donc pour vous, je pense que c'est la seconde. Et ils ont choisi ces moments-là en premier temps, mais bon, c'est, voilà, c'est des théoriciens, en disant que c'était des moments charnières. Mais évidemment, en CM2, donc on parle de puberté, beaucoup reçoivent leur GSM, même si évidemment, c'est pas à ce moment-là qu'ils ont attendu pour,
le GSM,
pour
être sur c'est
les
le portable,
réseaux sociaux,
hein.
Pour le porno. Oui, pardon, excusez-moi, je parle belge.
Vous avez bien raison. Vous avez bien raison.
Et puis, pour la seconde, c'est en lien avec les chiffres statistiques de la première relation sexuelle. D'où ce choix un peu stratégique, mais vraiment par manque de moyens. Je pense que si on doit considérer une organisation autour de l'EVRAS, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'idéal, ce serait le plus tôt possible. Tout simplement parce que du coup, c'est beaucoup plus facile de pouvoir aborder les choses. Quand on attend un certain nombre d'années, le sujet peut devenir un peu intimidant, donc on a des rires nerveux, pas toujours la possibilité d'exprimer les choses. Et puis, ce mécanisme de pouvoir écouter ses ressentis, parce que finalement, c'est ça, hein, quand on parlait là tout à l'heure de qu'est-ce qu'il y a dans les cours d'éducation sexuelle et où on entend que c'est réussir à mettre un préservatif sur un truc en bois ou sur une banane, peu importe. En réalité, l'essentiel, c'est de pouvoir être à l'écoute de ses propres ressentis pour savoir vers quoi est-ce qu'on a envie d'aller, finalement, s'outiller pour apprendre à reconnaître ses désirs et à pouvoir respecter ses non-désirs aussi.
Alexandra Hubin, en Belgique, on a récemment assisté à une déferlante de désinformation à propos de ce programme d'éducation sexuelle et à la vie affective. Le 17 septembre dernier, 1500 personnes avaient manifesté dans le centre de Bruxelles au cri de « touchez pas à nos enfants » pour protester contre ces animations scolaires de 2 heures par an. Et en France, des collectifs issus de la droite conservatrice et de l'extrême droite ont usé de tous les stratagèmes pour dissuader l'adoption d'une telle loi. Campagne de désinformation, harcèlement en ligne. Camille Aumont-Carnel, comment expliquer cette panique morale ?
C'est la panique des parents. Je pense que ça fait partie du passeport de parents. Mais face à cette panique, il faut s'organiser, il faut agir. Moi, ce que je note, et ça fait plusieurs années, il y a une espèce de croyance qui erre, qui serait celle qui consisterait à dire que parler de sexualité, parler de consentement, parler de pornographie à des ados, voire à des jeunes ados, ça les inciterait. Et cette espèce de croyance, je pense qu'il faut très vite la détruire et la déconstruire, parce qu'en fait, ça ne les incite pas, ça les prépare, voire même ça les éloigne. Quand on parle de pornographie, beaucoup d'ados finissent par aller sur des sites porno, parce qu'en fait, c'est un peu la proposition la plus complète, avec des images, du son, de la variété de corps, de la variété de pénis, enfin plus ou moins, de vulves, qui vont finalement, de façon assez frontale, sans jamais avoir besoin d'interaction, et donc de potentiel moment de gêne, répondent aux questions qui se posent. Moi, ça fait 6 ans que j'ai créé Je m'en bats avec Clito, ce compte Instagram, et ça fait 6 ans que, dès le début, j'ai des ados par centaines par mois qui m'écrivent. J'ai à peu près 200 messages par jour. Et c'est vrai que ça commence à 11 ans. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est pas qu'on leur montre, c'est pas qu'on vienne leur donner des définitions, c'est, bon, en gros, meuf, super, t'es la meuf qui répond en moins de 24 heures et qui parle mon langage, super, j'ai plein de questions. Et donc je pense que ces cours, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout un prétexte aussi pour créer des espaces de discussion, quoi.
Armel Auger.
Je crois que les parents, surtout, sont très mal à l'aise. Et les parents d'aujourd'hui, on pourrait dire, bon, quand même, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a eu une libération des mœurs, etc. On n'est plus dans les parents des années 50, 60 ou autres. Si, il y a une étude qui montre qu'à peine 15% des parents discutent de vie, de relations sexuelles avec leurs enfants. Et ça tient surtout à protège-toi. C'est-à-dire, voilà, qu'il faudrait, est-ce que tu sais qu'il existe des choses pour se protéger quand tu sors et... Point barre. Et les parents et les enfants n'ont peut-être pas envie non plus d'en parler avec leurs parents.
Maïe Mazorette.
Oui, ce qui se joue aussi, je pense, c'est la construction de l'enfant comme personne innocente. Et voilà, et c'est cette idée qu'il faudrait absolument préserver cette innocence contre les invasions extérieures. Alors déjà, que l'enfant soit innocent depuis Freud et depuis la recherche scientifique, on peut un petit peu revenir là-dessus. Mais effectivement, enfin, c'est il y a quelque chose qui se joue là. En revanche, ce que je voudrais dire à ces parents-là, c'est qu'en voulant préserver à tout prix l'innocence de leurs enfants, il est bien possible qu'ils les mettent en danger. Parce que ce qui est enseigné à l'école, c'est aussi de pouvoir dire non. Donc paradoxalement, si vous voulez que votre enfant reste innocent par rapport à la sexualité, lui laisser assister à ce genre de cours est plutôt une bonne manière de procéder.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, il faut. Enfin, moi, je suis parent et j'ai des ados à la maison. Et alors, non pas que je vais généraliser mon cas, mais c'est compliqué d'être parent aussi, et c'est compliqué d'en parler. Il y a précisément, en fait, et je suis pas sûr que les parents doivent absolument toujours en parler, etc. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle aussi qu'il y a une conversation publique là-dessus, parce que, au fond, moi, je le pense, j'essaie de le penser comme ça, c'est-à-dire que c'est un choc de l'intime. C'est-à-dire qu'il y a une intimité des parents, et une intimité sexuelle des parents, il faut pas se voiler la face, parce que si les enfants sont là, c'est parce qu'il y a eu de l'intimité sexuelle entre les parents, globalement. Voilà, donc il y a cette intimité-là qui est une sorte d'implicite fondateur de la famille, ou des familles, et puis il y a une intimité en construction, celle des enfants, et je suis pas certain qu'il faille que ces deux intimités soient perméables. Bien sûr, communiquer, être dans une forme d'écoute, etc., etc., mais aussi, peut-être, on peut dire qu'il y a aussi une forme de respect de l'intimité. On a pris conscience ces dernières années de l'importance, par exemple, d'avoir une chambre à soi, c'est-à-dire la fameuse formule de tirer du titre de Virginia Woolf. Cette chambre à soi, en fait, il faut les voir, évidemment, pas que dans l'espace, mais aussi dans la construction personnelle des enfants.
Camille Montcarnel.
En bref, en fait, l'adolescence, c'est une période de rupture. Et je pense qu'en fait, cette période de rupture entre parents et ado, il faut la respecter. Et donc ces cours-là, finalement, pour conclure, c'est surtout une bonne nouvelle parce que ça va permettre, dans cette période de rupture, de quand même apporter des informations là où les parents ne se sentent pas forcément à l'aise et là où les ados n'ont pas forcément envie d'en parler avec leurs parents.
Alors, on se retrouve dans un instant pour évoquer ces réseaux sociaux et ces séries télé qui parlent de sexualité aux ados. Et vous, comment parlez-vous de sexualité avec eux? 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté Billie Eilish, Therefore I Am, un titre de 2020, 10h26 sur France Inter. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Interpréter Therefore I Am.
Grand bien vous fasse.
Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec Téliton?
Le prof d'anglais?
Ali Rebéi.
C'est dans 5 minutes. C'est 10 balles.
Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à la nouvelle éducation sexuelle des ados sur les réseaux sociaux et dans la culture pop. Tiens, écoutons cet extrait de Fais pas ci, fais pas ça.
Voilà, je disais, il faut absolument que tu saches qu'en couchant avec un garçon sans précaution, tu peux attraper des maladies. Et même des maladies très graves. Écoute-moi, ma chérie, évidemment, il y a le sida, tout le monde le sait, mais il y a plein d'autres choses. Il y a aussi les herpès génitaux, les vénorragies, les mycoses. C'est très emmerdant, les mycoses.
Mais t'es complètement malade, maman.
Écoute-moi. La pilule n'est pas une précaution suffisante. Tu m'entends? Il faut absolument que tu mettes des préservatifs aussi. Alors, je ne savais pas, je t'ai pris toutes les tailles, hein, au cas où. Tiens, et alors ici, j'ai une petite notice.
Mais en gros, c'est dégueulasse!
Si tu pouvais attendre un petit peu, j'aurais le temps de te montrer à la maison avec une banane ou une courgette, mais là, t'es là, tu précipites!
Une gêne palpable côté parents et côté ado dans la série française Fais pas ci, fais pas ça. Et nous accueillons Iban, qui est en seconde à Lannion, en Bretagne. Bienvenue.
Merci.
Amateur de Maya Mazorette dans Quotidien sur TMC. Iban, je me permets de te tutoyer. Est-ce que tu es gêné de parler de sexualité avec tes parents? Est-ce qu'ils t'en parlent? Et est-ce que tu es gêné quand vous abordez ce sujet-là?
Et fais comme si vraiment il n'y avait pas un million de personnes au monde qui t'écoutaient en ce moment.
Non, en soi, je suis pas forcément gêné parce que ça reste des humains comme des autres. C'est comme si j'en parlais à quelqu'un, par exemple à la fermière scolaire ou tout comme ça.
Mais est-ce que tu en parles naturellement? Est-ce que eux t'en parlent naturellement?
Ouais, nous, on n'a aucun tabou sur ça. On peut en parler comme ça, sur un repas ou je sais pas.
Et qu'est-ce que vous abordez comme question, par exemple?
Si, par exemple, j'ai eu des rapports ou si je sais comment me protéger au cas où, ou même si je me protège pas, est-ce que je sais faire après, derrière, etc.
Et est-ce que à l'école, puisqu'il y aura des cours dédiés dans le programme à partir de septembre prochain, en ce moment, depuis que tu es au collège, depuis la sixième et jusqu'aujourd'hui en seconde, est-ce que tu as eu des cours d'éducation à la sexualité ou à la vie affective? Est-ce que tu as eu des...
J'en ai eu depuis la sixième. J'ai tous les ans. J'ai au moins une heure d'une intervention sur du coup les trucs comme ça pour savoir les mettre les capotes, etc.
D'accord. Ce sont des associations qui viennent,
des
c'est
associations,
ça
ouais.
D'accord. Est-ce que tu es un habitué de TikTok, des réseaux sociaux, pour t'informer sur cette éducation sexuelle?
Non, je m'informe pas sur les réseaux. Non, c'est des fois des articles qui passent ou du coup juste à l'école.
Parce qu'il y a un chiffre important. Armel Auger, je rappelle que vous êtes journaliste à Oui Demain et vous proposez un sujet consacré à l'éducation sexuelle sur TikTok. La moitié des collégiens et 90% des lycéens fréquentent TikTok, le célèbre réseau chinois. Qui sont ceux qui proposent une éducation sexuelle et affective sur les réseaux sociaux? On trouve de tout.
Alors, il y a un inventaire à la Prévert, oui. Il y a tout. Il y a des sexothérapeutes autoproclamés ou réellement formés. Il y a des journalistes, il y a des influenceurs, des influenceuses, il y a des enseignants, il y a des love coach. Alors ça, les coachs, c'est un petit peu, c'est nouveau et ça dépasse après, ça va sur les plus grands pour faire un coaching sentimental qui peut parfois être soucieux parce que on revient, c'est mon idée fixe sur cet éloge du mâle alpha et ce mépris pour le mâle bêta. Bon, ça, on y reviendra, mais sur les jeunes, je trouve que c'est dramatique. Et puis, il y a des gens formidables qui aident, comme Camille, dont moi, mes filles. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça. Il y a des années qu'elles la suivent et elles me disent, mais elle fait un bien phénoménal parce que elle a les mots pour le dire, des mots qui ne sont pas ni de prof, ni de daron, daronne et qui sont, voilà. Juste les bons mots pour dire au bon moment avec la personne en face qui a des références ou pas des références. C'est important.
Camille Moncarnel, que proposez-vous sur votre compte Instagram Je m'emballe clito? Quelles sont vos règles et votre pédagogie? Vous êtes une adepte du cash mais pas trash.
Exact. Oh là là, les punchs. Ça ressort des archives, j'adore. Ouais. Déjà, merci. Je prends, ça me va à droite au cœur.
Non, mais c'est vrai.
Ce qu'on souligne là, je pense que c'est mon ton et ma ligne édito. Moi, sur Je m'en bats clito, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle des punchs. C'est un exercice de phrases très courtes, impactantes, qui viennent à un moment donné soit nous faire rire, soit on se reconnaît, soit on se dit, ah ouais, quand même, elle a osé, mais le pire, c'est qu'en fait, elle a quand même raison. Soit d'une certaine façon, ça vient répondre à des questions de par le niveau linguistique qui est très chirurgical et le niveau de détail. Mais au-delà de ça, Jean-Marie Clito, c'est une communauté notamment de 17-25. Quand j'ai écrit Ado Sexo, je me suis concentrée sur la communauté des 14-18. Et au-delà de ça, en fait, je me rends compte que j'ai de plus en plus de parents. Et pour ça, j'ai créé autre chose qu'un groupe WhatsApp de parents, un groupe d'entraide et d'échange.
Ça s'appelle comment?
Qui s'appelle parents d'ado en stress, mm-hmm. qu'on peut rejoindre, écrivez-moi. Parents d'ado en stress, parce que l'enjeu, certes, c'est les ados, mais à un moment donné, on se rend bien compte que les parents aussi sont en galère et qu'il faut leur expliquer, s'échanger des conseils et à minima se rassurer.
Maya Mazourette, vous jouez un rôle également à la télévision, dans Quotidien sur TMC, la preuve, Iban vous suit. C'est un rôle important à une heure de grande écoute?
Absolument, et effectivement, à une heure de grande écoute, en fait, pendant longtemps, la sexualité à la télé, c'était des témoignages sur des choses très niches, le libertinage, des choses comme ça, qui passaient tard le soir, et puis les personnes qui témoignaient, c'était forcément floutées, ou alors dans l'ombre, ou alors on filmait seulement leurs mains, ou seulement leurs pieds, donc ça dramatisait terriblement le propos. Là, moi, je fais des documentaires qui commencent à 21h, qui sont accessibles à tout le monde, avec des gens qui parlent face caméra, et je m'aperçois à chaque fois qu'il y a une publication que je reçois des centaines et des centaines de commentaires pendant la diffusion, de personnes qui disent « Mais le fait de voir le visage des gens qui témoignent, ça m'aide à me reconnaître. » Et ensuite, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, mais en tout cas, ça permet de faire tomber quelques tabous. Donc, je suis contente de faire ça, mais il faut aussi remercier tout simplement les équipes de Quotidien, et notamment les producteurs, Yann Barthès et Laurent Bon, qui ont décidé, alors que ce n'était pas évident, de dire « Ouais, on va mettre de la sexualité à 20h en semaine. »
Les questions que les ados vous posent, Camille Aumont-Carnel, Maya Mazourette, se posaient il y a 30 ou 50 ans, est-ce qu'elles sont vraiment différentes de celle des ados de 2024?
Alors moi, le ratio que j'ai, c'est 70%, 30%. Il y a 70% de base qui ne changent pas, qui sont les mêmes questions qu'on se posait. C'est les questions de la norme, c'est les questions de la taille du sexe, c'est les questions des odeurs, des flux, des règles. Et puis il y a 30% qui sont intrinsèquement liés à toutes les questions de numérisation, d'accès à la pornographie, de réseaux sociaux, d'identité de genre, d'orientation sexuelle. Et donc, c'est plutôt les 30% qui sont assez nouveaux et sur lesquels il faut vraiment, à mon avis, vraiment se focus. Parce que il y a une dimension qui nous dépasse. Enfin, c'est-à-dire même nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'éducatrices, en tant que leaders, leaders d'opinion, il y a aussi des choses où on se dit, j'ai pas connu ça. Donc, on peut pas faire référence à nous, ce qui nous est arrivé. Il faut absolument qu'on se base sur les témoignages. Mais il y a quand même une bonne base.
Oui.
Franchement, qui change pas, parce qu'en fait, on se pose les mêmes questions, on a tous et toutes peur des mêmes choses. Donc non, quand même.
Maya Mazourette.
Je note un rapprochement des préoccupations des hommes et des femmes, alors que quand moi j'ai commencé il y a 20 ans, les hommes c'était très plaisir, comment être dans la performance, et les filles c'était plutôt dans les magazines féminins, comment être jolie, comment être désirable. Et là, je vois que les garçons s'intéressent à comment être désirable et le consentement, et les filles s'intéressent à des choses extrêmement techniques. Donc voilà, tout ça se mélange, c'est plutôt gay.
Armel Auger, qu'est-ce que vous avez constaté sur TikTok?
Cette notion de normalité, de panique vis-à-vis « est-ce que je suis normale ?» et notamment l'ingérence là-dedans du porno. C'est-à-dire, j'ai vu ça, c'est ce qu'il faudrait que je fasse, que j'arrive à faire. Donc pour les garçons quand même, cette notion de performance. Pour les filles, ce côté très physique, par exemple l'épilation, l'hashtag épilation, alors c'est des millions de vues. Oui, mais j'ai vu dans les pornos, on doit être tout épilé, etc. Les odeurs, panique aussi sur les odeurs, avec tout un marketing d'ailleurs qui vient derrière pour dire, utilise ça. Tu sais, les odeurs, c'est abominable. Si tu veux être une fille bien, etc., il faut faire... ce côté de normal, être normal et rentrer dans une norme qui est édictée par les pornos, c'est un peu... Là aussi, c'est soucieux.
Iban, est-ce que tu as une question?
Pour Maya, tiens.
Comme par hasard.
Je réfléchissais en même temps. Mais comment ça vous est venu à l'esprit de parler de ça? Et puis, sur quel public, surtout, vous voulez vous pencher? Plus vers les ados ou plus vers les adultes, vers les parents ou vers les enfants, du coup
Moi, je veux croire qu'on peut parler à tout le monde en même temps, déjà, même si ensuite, côté langage, les personnes jeunes, moi, je comprends rien à ce qu'ils disent. Donc, vraiment, j'assume complètement mon côté daronne sans enfant. Moi, j'ai commencé en parlant aux hommes. Et j'ai fait la plupart de ma carrière dans la presse masculine avant de passer à des choses plus généralistes.
Moi, je vous lisais dans GQ avant de vous
connaître.
Et
avant ça, j'étais chez New Look, j'étais chez Playboy, j'étais aussi sur pas mal de sites de jeux vidéo.
C'est des univers dont je reste proche, exactement. Et je trouve ça chouette d'être passé par ça et aussi par les blogs qui à l'époque étaient un endroit où on pouvait être libre. Et là, ce qui change finalement dans le paysage médiatique, c'est que moi, je suis plus protégée en faisant mon métier aujourd'hui sur la radio comme France Inter ou en télé avec Quotidien ou en magazine papier comme Le Monde. Que je le suis sur Instagram où je me fais bannir tout le temps, sur TikTok où je suis pas, et sur Twitter où je me fais aussi bannir. Pourquoi ? Aujourd'hui, paradoxalement, parce qu'en fait, les contenus liés à la sexualité, si on emploie certains mots, font que quelqu'un comme moi, je vais me faire reporter par certains utilisateurs qui aiment pas ce que je raconte. Et donc, je me fais chasser un petit peu tout le temps. Et je trouve ça paradoxal que les médias traditionnels aujourd'hui soient les garants d'une plus grande liberté dans la parole des experts que ce sont les réseaux sociaux. Mais peut-être que Camille aura une opinion.
Camille ou Moncarnel ?
Non, moi, là-dessus, on se rejoint complètement, Maya. Après, il y a aussi la dimension purement harcèlement, c'est-à-dire, outre les hashtags et outre les mots-clés, il y a aussi la dimension, cette parole gêne. La dimension que prend cette parole gêne, le fait que ça soit incarné à visage découvert et que, autant vous comme moi, on n'incarne pas du tout ce truc de la femme qui a honte et qui y va quand même, mais un petit peu à tâtons. On y va, comme je dis toujours, avec une énorme Big Lit énergie. Et c'est ça aussi qui dérange. Ce qui dérange notamment, c'est le fait, et ça c'est plutôt pour les parents, j'ai l'impression qu'on ait accès à leurs ados. Il y a un peu un truc de, waouh, mais en fait vous avez un espèce de passe-droit que nous on n'a pas, du coup on se retrouve encore plus largués qu'on ne l'était, et nous, quand est-ce qu'on comprend ?
Ça énerve un petit bout de Saint-Maurice, père de quatre enfants.
Non,
il est dans la projection.
Au contraire, moi je suis très très partisan d'une sorte de délégation,
chambre, Thibault.
Pour plein d'ailleurs thèmes de l'éducation, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que...
Alexandra Hubin, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et sexologue clinicienne en Belgique. Pour plusieurs générations, dont la mienne, la pornographie a été un éducateur des films X diffusés sur Canal+, en clair ou en crypté, dès 1984, en passant aujourd'hui par les sites interdits, évidemment, aux moins de 18 ans. Au-delà de l'excitation que provoquent ces scènes pornographiques, cette pornographie comble un manque d'information chez de nombreux jeunes, avec un effet pervers, Alexandra Hubin. L'intégration de certains codes du porno.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que je dis pas mal aux personnes qui se révoltent contre le fait qu'il y ait de l'éducation relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, c'est attention, en fait on laisse à la pornographie tout l'espace de l'éducation sexuelle si on n'aborde pas les choses dans les classes. Et en fait, là où c'est dangereux, c'est pas tellement qu'ils ne savent pas qu'il y a full montage, et c'est-à-dire qu'avoir des érections qui vont rester extrêmement longtemps et où un homme pourrait être capable de faire le marteau-piqueur pendant des heures sans avoir la moindre faiblesse au niveau de ses érections et d'avoir une éjaculation monumentale, il y a quelque part une perception qu'il y a du trucage. Mais le problème, c'est que malgré ça, ça peut développer énormément d'angoisse de performance et de complexe. Parce que c'est un petit peu comme quand, je vais ouvrir un magazine féminin, il y a une petite voix intérieure qui va me dire « Oui, mais Alex, toutes ces filles sont photoshopées. » en me disant que elles sont photoshopées ou qu'elles en ont fait son métier, qu'elles ont un rapport au corps qui est tel que celui-là, et pourtant je vais pas pouvoir m'empêcher de pouvoir rêver d'avoir des jambes aussi longues que celles-là. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que outre le fait que on peut conscientiser qu'il y a des trucages, le fait d'être exposé régulièrement à de la pornographie et de pas avoir le décodeur, ne pas avoir une analyse critique des débats qui peuvent être faits même entre pairs, est dangereux.
Maya Mazorette.
Écoutons la parole des premiers concernés, les jeunes eux-mêmes. Il y a des enquêtes qui sont faites et qui rapportent que la plupart d'entre eux trouvent qu'ils ont vu de la pornographie trop jeune. Et dans les stats, on voit, il y a quelques années, grâce à une enquête de l'IFOP, qu'un tiers des garçons avaient déjà eu le sentiment que leur pénis n'était pas assez gros parce qu'ils regardaient de la pornographie. Et la moitié des jeunes avaient déjà essayé de reproduire des positions qu'ils avaient vues dans du porno. Donc la souffrance qui est générée par la pornographie, c'est pas seulement nous, la parole d'adultes, qui venons la plaquer sur les jeunes, c'est eux-mêmes qui la rapportent.
Iban, est-ce que, par exemple, tu es d'accord avec ce que vient de dire Maya ?
Bah ouais, franchement, ouais, totalement. Je sais que par exemple mon petit frère de 8 ans, il sait déjà comment ça se passe, il sait tout sur ça alors que personne n'y en a parlé. L'école n'y en a pas parlé parce que j'étais dans la même école que lui. Et je comprends pas en fait comment il peut sortir ça, comment il...
Et est-ce que tu penses que le visionnage répété de pornographie peut avoir un impact sur, ben voilà, une angoisse de performance, une peur de pas être dans la norme?
Bah bien sûr, comme disait du coup le témoignage, là, c'est, ça peut être, on est quasiment sûr que c'est truqué en fait, ça peut pas être comme ça tout le temps.
Il y a une panique, enfin une dévalorisation possible sur est-ce que je vais être aussi performant que ce que je vois, mais il y a aussi la notion de violence qui peut, et de non-consentement qui peut être aussi une des conséquences du visionnage de porno, où si toutes les filles, bah, elles adorent ça, il y a 3 mecs, il y a 4 mecs, il y a 5 mecs, le consentement, bon, qu'est-ce que c'est? Et là, sur la notion, ce fléau qu'est les violences, sexuel, le porno peut avoir une implication directe.
Camille Moncarnel.
Ce matin, dans le groupe là de parents d'ados en stress, il y a une mère qui lançait un débat que j'ai trouvé hyper intéressant. Et franchement, il fallait oser. Elle demandait si certains parents avaient des références de pornographie pour ados. Est-ce qu'il y a des sites porno ou des boîtes de prod qui produisent du porno qui est adapté aux 12, 15, 16 ans? Avec vraiment ce pragmatisme de, en fait, ils y vont déjà. Donc en fait, quitte à ce qu'ils y aillent, est-ce qu'en fait, à un moment donné, il ne faut pas aussi se concentrer sur des contenus qui leur seraient plus adaptés, qui renverraient les bons messages, plutôt qu'être dans une démarche de « il faut surtout pas qu'ils regardent du porno ». Et derrière, ça a lancé pas mal de débats avec des parents qui étaient contre, d'autres qui disaient « mais c'est pas du tout notre rôle, nous, en tant que parents », et d'autres qui disaient « bah, en fait, ça nous échappe, donc autant leur proposer quelque chose qui leur aille ».
Juste, dans ce cas-là, une petite reco qui passe pas par les choses graphiques, parce que je crois que quand c'est visuel, c'est toujours un peu plus compliqué. Bien trop petit de Manu Kos, qui est sorti l'été dernier, qui a été interdit par Gérald Darmanin. C'est du porno pour ados à partir de 15 ans. C'est extrêmement bien fait, ça ouvre à toute forme de sexualité, c'est excitant. Et c'est fait pour les jeunes.
Allez, il est 11h moins le quart. Merci pour cette recommandation, Maya. Il est temps de retrouver Ma vie de parent de Julien Bisson.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Alors, Julien Bisson, cette semaine, vous vous demandez si les adolescents d'aujourd'hui ont une plus mauvaise éducation sexuelle que leurs parents.
Ah, vous commencez à me connaître, je ne suis pas du genre à succomber à la nostalgie. Mais il faut bien parler au moins de 20 ans d'un temps qu'ils ne peuvent pas connaître. Un temps où il n'y avait pas Internet, pas de réseaux sociaux, pas de Hugo Décrypte ou de Je m'en bats le clito pour bénéficier de tutos sexo. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'avait rien. Il y avait la radio, par exemple. Ah oui. Alors pas celle que vous écoutiez, mon cher Ali, parce que je sais bien qu'à 14 ans, vous étiez déjà fidèle aux ondes de France Inter, vous vous branchiez chaque soir religieusement à Allo Macha, sans doute, pour en savoir un peu plus sur les mystères de l'amour. Macha Béranger, que vous écoutiez en direct, puisque c'était avant l'invention des podcasts et des radiocassettes. Mais pour les parents d'ados d'aujourd'hui, qui étaient eux-mêmes ados dans les années 90, l'éducation à la sexualité, ça se passait sur une autre antenne, celle de Fun Radio, où tous les soirs, on écoutait assidûment le doc.
Mais j'écoutais.
Vous aussi?
Oui, je suis de la génération Fun Radio aussi.
Le doc Christian Spitz, de son vrai nom. On l'écoutait répondre aux doutes et aux interrogations d'adolescents réfugiés dans la cabine téléphonique en bas de chez eux, en ponctuant ses interventions par sa formule culte « ce n'est pas sale ». Question sexualité, c'était quand même souvent assez cru, mais toujours moins que la pornographie qui existait déjà à ce moment-là. Moi, je n'appartenais pas au clan de ceux qui avaient Canal+ et qui profitaient des films du samedi soir. J'étais de ceux qui avaient pris l'habitude de regarder les matchs de foot encryptés. Un copain m'avait dit qu'il fallait regarder l'écran à travers une passoire. J'avais été assez bête pour le croire. Mais bon, le foot passe encore, mais le film du samedi soir encrypté, alors là, fallait faire marcher nos imaginations. On voyait en gros un gros tas de pixels gris clair, approché d'un gros tas de pixels gris foncé, sans musique, sans parole, juste quelque chose qui ressemble à... Et là, mesdames et messieurs, on était au sommet de l'érotisme pour un ado des années 90.
Et notre réalisatrice Claire Destacan vient de me révéler dans le casque qu'elle aussi, elle utilisait une passoire dans les années 80-90 pour regarder du porno. Mais pas pour les matchs de foot. Donc, Julien, il y avait aussi de l'éducation sexuelle à l'école.
Oui, alors on en a parlé, vous avez raison. C'était dans le programme de 3e des sciences et vie de la Terre. On y voyait d'autres genres de vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Nous aussi, on a eu droit au documentaire sur l'accouchement vu en gros plan, qui formait pour mes camarades et moi à peu près notre première découverte de l'anatomie féminine. Bon, on n'y avait pas de sexualité au pluriel, pas de consentement, de harcèlement, de tendresse non plus. Non, à la place, on avait les cours de sensibilisation au sida, qui ont si bien traumatisé notre génération qu'on a cru pendant des années que toute rencontre sexuelle avait des airs de pile ou face avec la mort. Cela dit, on en a au moins profité pour apprendre à dérouler le fameux préservatif sur la banane, en essayant de paraître un minimum dégourdi à côté de la jolie Lucie Fillon.
La fille de
Lucie Fillon, c'était la fille dont j'étais amoureux en
cascadeur. Oui, mais c'est la fille de François Fillon?
Non, pas du tout. Moi, je ne crois pas. mais on, ce qui était bien, c'est qu'on s'était quand même fait distribuer un échantillon neuf prêt à l'emploi. Préservatif que j'ai retrouvé il y a quelques temps dans un carton de vieilles affaires périmé depuis plus de 20 ans, preuve de sa grande utilité à l'époque.
Il est en poudre quand vous l'avez retrouvé, ce préservatif.
Non, j'ai pas ouvert.
Bon, alors Julien, est-ce que ça veut dire que l'éducation sexuelle, c'était pire avant?
Non, j'espère que c'était pire avant. Mais si j'en crois l'augmentation actuelle des IST, gonorrhée, syphilis et autres chlamydia, je me dis que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas forcément mieux éduqués. Mais il est probable que le rapport à la sexualité soit différent. À 14 ans, nous n'en parlions pas souvent entre nous parce que nous n'y connaissions à peu près rien. Et à 14 ans, les ados d'aujourd'hui me disent qu'ils n'en parlent pas beaucoup plus parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient tout savoir. Dans les deux cas, un même sentiment de honte et de solitude dès lors qu'on aborde la question sexuelle. Et ce point commun dit peut-être ce qui reste encore à améliorer dans l'éducation à la sexualité, une éducation à en parler entre eux, librement, sans honte ni tabou. Et puis si jamais ça bloquait encore, si vous cherchez des réponses à vos interrogations sans demander aux formes de Doctissimo, rassurez-vous, il y a Maya, il y a Camille, et puis il paraît même que le doc a repris du service cette année, tous les mercredis, sur France Bleu.
Mais c'était vraiment formidable, Doc Eddie Fool, dans les années 90 sur Fun Radio. Vous confirmez, Camille, au moment où
je confirme, il faudrait revenir à ça quand même. Il faudrait relancer Eddie Fool post-MeToo.
Il y avait Radio Carbone aussi, non?
Ah oui, ça c'était plus ancien.
C'était plus ancien, non, mais c'est pour dire
oui, au début des années 80,
au début des passer des trucs en direct,
c'était fou, Radio Carbone. Et d'ailleurs, à propos d'infections sexuellement transmissibles, Thibaut de Saint-Maurice, il existe un podcast chez Nouvelles Écoutes qui s'appelle « Qui m'a filé ma chlamydia ?» Oui. La chlamydia, c'est une IST.
Oui, c'est un très bon podcast que je vous encourage à écouter. C'est fait par Anouk Perry et ça part donc d'une problématique très simple. Anouk se rend compte qu'elle a de la chlamydia et elle part à une enquête pour savoir à la fois qui lui a filé et en fait, c'est un prétexte pour expliquer ce qui se passe et surtout rencontrer de médecins experts et passer en revue finalement différentes IST. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement intégré en fait à la vie d'une jeune femme et de ses relations de 25-30 ans d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé que c'était une façon extrêmement subtile, légère et efficace de faire de l'information et de la prévention.
Qui m'a filé ma chlamydia, c'est chez Nouvelles Écoutes. Et tous les épisodes de la chronique Ma vie de parent de Julien Bisson sont à retrouver sur l'appli Radio France. Et dans un instant, nous verrons si des séries télé comme Sex Education peuvent informer les adolescents sur la sexualité. Ce sera juste après avoir écouté Alyosha Schneider qui interprète Ensemble.
Cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Ça suffit de rassembler nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Alyosha Schneider interprété Ensemble.
Alors la langue et tout, la bave, comment je fais? Ça coule pas sur les côtés?
Ça fait pas décollaison.
Grand bien vous fasse.
Ben non, mais en fait ça se fait naturellement. C'est, tu vois, c'est aspiré.
À l'IRBI.
Ça fait un courant, un peu comme avec les hélices des bateaux. Ah, attends, je te montre. Voilà, attends, pas toujours dans le même sens.
Non, mais c'est quoi ça?
Sur France Inter.
Julien Bisson qui s'est reconnu dans cet extrait des beaux gosses. Évidemment, les beaux gosses, c'est formidable. Et on s'intéresse ce matin à la nouvelle éducation sexuelle des ados sur les réseaux sociaux et dans la culture pop et singulièrement dans les séries télé. Thibaut de Saint-Maurice, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie spécialisé en pop philosophie. Vous aviez publié Philosophie en série en 2 tomes, excellent ouvrage. Des séries télé comme Scam ou Sex Education peuvent-elles vraiment informer les ados sur la sexualité, prenons Sex Education qui est diffusé sur Netflix, racontez-nous peut-être l'argument, le pitch, et est-ce que c'est utile pour les ados de regarder ce type de série ?
Oui, Sex Education, donc c'est une série qui a été créée en 2019, il y a 4 saisons, la dernière saison était en septembre dernier. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Otis, qui rentre au lycée. Sa mère, jouée par Gillian Anderson, souvenez-vous, X-Files, eh bien sa mère est thérapeute sexuelle, sexologue, voilà, bon. Mais Otis, lui, il est un peu complexé, c'est le début du lycée, il sait pas trop, il a pas eu de rapport sexuel, il est voilà un peu timide sur le sujet, et en fait rebondissement, il se laisse embarquer par une jeune fille du lycée qui s'appelle Maeve, il se laisse embarquer dans une sorte de processus de séance de thérapie sexuelle pour ados clandestines dans des toilettes désaffectées. Évidemment contre espèce sonnante et trébuchante, parce que c'est un moyen de se faire des sous. Donc en fait, c'est quoi ? C'est une série d'ados qui se passe dans un lycée anglais, et ça parle de sexualité. Et en fait, ce que je trouve assez génial dans cette série, c'est que évidemment, comment dire, ça joue carte sur table. C'est le titre même de la série. Très vite, dès le, je pense, les premières minutes du premier épisode, il en est question. Mais cette série opère systématiquement un décalage de la question ou de la préoccupation autour de telle ou telle pratique, de telle ou telle question de sexualité, vers la conversation. Et la conversation remet systématiquement la question dans un contexte relationnel et affectif, avec, et c'est ça peut-être la grande leçon éducative de cette série, une dénormalisation des normes, justement, imaginées, représentées. Et je pense, du coup, une assez puissante matrice d'émancipation des individus qui, du coup, au moins ont appris une chose en regardant Sex Education, c'est qu'il n'est pas c'est pas la peine de se conformer à une quelconque norme que ce soit.
La thérapeute de couple, Thérèse Argot, qui publie Tout le monde en regarde ou pas, entre guillemets, du porno, se demande dans le Figaro si c'est vraiment à Netflix de faire l'éducation sexuelle de nos adolescents. Question que je vous pose, Camille.
Quand personne d'autre l'a fait, oui. C'est tout le souci.
Armel Auger.
Il y a personne. Les parents, on l'a vu, ils sont pas très à l'aise. À l'école, il y avait rien. Donc voilà, quand il y a un vide, heureusement qu'il y a des structures qui se créent, pour le meilleur, pour le pire. Ça, c'est Thibault. Autre chose.
Pardon, mais c'est une question totalement débile. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que c'est on va avoir une série historique, on va dire, est-ce que c'est vraiment un Netflix de faire de l'histoire ? On va avoir une série politique, on va dire, est-ce que c'est vraiment un Netflix de faire de l'histoire ?
En plus, les jeunes, vraiment, moi, tout ce que je dis, ils aiment. Et puis, ça a ce côté d'ouvrir, en effet, et de dire, c'est normal, n'ayez pas peur, n'ayez pas de... Vous
ce
posez
pas
des
sale.
Questions.
Camille Moncarnel. C'est pas sale.
Là, vous parlez du fond. Moi, j'aimerais quand même bien parler aussi de la forme. Ces séries, c'est le cool. Ouais. C'est l'incarnation même de la série branchée. Il y a les codes, la prod, elle est nickel. Le stylisme, on se reconnaît absolument. On se dit, en fait, j'ai le même jean, j'ai les mêmes baskets. Donc, outre le fond, les jeunes sont aussi sensibles aux codes de marketing, aux couleurs, aux DA, et c'est pour ça que ces séries cartonnent aussi.
En tout cas, au terme de cette émission, il ne faut pas diaboliser l'éducation sexuelle via les réseaux sociaux. Il faut faire attention à Armel Auger. Hein. Et je renvoie à votre excellent papier dans Oui Demain, actuellement en kiosque. Et puis, il faut regarder des séries comme Sex Education, Scam, qui est une série française, ou plus loin dans le temps, Skins, qui est très bonne.
À chaque fois, en les remettant un peu dans leur contexte, c'est vrai. Mais oui, absolument.
Merci beaucoup, Camille Aumont-Carnel. Je recommande le livre Ados Sexo, c'est publié chez Albin Michel, et votre compte Instagram. Je m'emballe le clito. Merci Thibaut de Saint-Maurice, merci Maïe Mazorette. On vous retrouve ce soir dans Quotidien sur TMC.
Vendredi soir.
Merci Alexandra Hubin en Belgique. Merci Armel Auger. Votre papier est donc à lire dans Oui Demain. Et merci Iban pour cette première sur France Inter. Merci d'avoir participé à cette émission. Demain avec Femmes Actuelles, quelles sont les villes où les femmes vivent le mieux en France ? On s'intéressera à la place des femmes dans des villes qui sont souvent faites par et pour des hommes.